France Culture.
Et on reprend la route des midis. Bienvenue. Tout à l'heure à 13h, je recevrai le romancier Jérôme Ferrari. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le musée virtuel du Soudan est en ligne depuis le 1er janvier 2026 pour pallier notamment le pillage des œuvres du musée national de Khartoum suite à la guerre qui agite le pays. Comment ce projet a-t-il vu le jour? Quelles œuvres peut-on découvrir dans ce musée virtuel? C'est notre dossier du Point Culture du jour. Faïsa Drissi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue et chercheuse à la section française de la Direction des Antiquités du Soudan et vous avez participé au travail qui a permis d'aboutir au musée virtuel du Soudan. Alors il faut sans doute rappeler d'emblée la raison pour laquelle il a été nécessaire de mettre en place ce musée virtuel. Que s'est-il passé ?
Oui, eh bien, le Soudan est plongé depuis avril 2023 dans une guerre entre les armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Donc dans ce contexte, le patrimoine archéologique du pays n'a pas été épargné malheureusement. Plusieurs musées ont été investis, notamment le Musée national du Soudan à Khartoum, qui est l'établissement culturel majeur qui réunit les collections archéologiques du pays. Donc il faut savoir que ce musée était fermé depuis quelques années pour rénovation et il devait réouvrir ses portes fin 2023, mais malheureusement le conflit a entraîné l'abandon de ce projet. Donc 2 ans après le début de la guerre, nous avons la possibilité de mettre en ligne un musée virtuel. Donc le projet s'est monté en collaboration avec la section française de la Direction des Antiquités du Soudan, qui est un institut français de recherche à l'étranger, qui était basé à Khartoum avant le début du conflit, et nos collègues du service des Antiquités du Soudan et la directrice du musée national.
Et quel était, donc c'était un musée, avant d'être un musée virtuel, c'était donc un musée bien réel, physique, ça on l'a compris, et quelle était l'histoire de ce musée et surtout son importance dans le paysage culturel soudanais ?
C'est le musée, il est toujours le musée national du Soudan, basé dans la capitale, à Khartoum. Il avait été inauguré en 1971 et il réunit une grande majorité des collections archéologiques du pays, environ 100 000 pièces, de la préhistoire jusqu'à l'époque médiévale. Donc, comme je le disais, le musée était en rénovation. Il devait exposer dans la nouvelle exposition permanente environ 2000 pièces qui allaient couvrir toute cette chronologie de la préhistoire jusqu'à l'époque médiévale en passant par les grands royaumes antiques que sont Kerman, Apata et Meroé.
Et alors dans ce musée virtuel, on peut naviguer, on peut passer de pièce en pièce, cliquer sur les œuvres qu'on souhaite mieux voir. Et les pièces sont aussi accompagnées de cartels explicatifs. Comment vous avez fait concrètement pour faire, alors d'une part évidemment l'inventaire des pièces, mais aussi pour trouver des photos et ensuite évidemment mettre tout cela en 3 dimensions?
Alors ça a été un très gros travail de la part des équipes du Musée national du Soudan à Khartoum, des conservatrices qui sont ici réfugiées au Caire. Il faut savoir que la guerre a entraîné un départ précipité des équipes, que ce soit les équipes soudanaises ou notre équipe française qui était aussi sur place, ce qui n'a pas permis de récupérer l'intégralité des archives ou des bases de données. Donc il y a eu un très très long travail de récollement afin justement de réunir tous ces cartels descriptifs, récupérer plusieurs photographies des objets que nous souhaitions exposer. Donc l'idée était de collaborer entre la SEPDAS et le service des antiquités pour monter ce projet. Nous avons aussi eu l'aide d'autres collaborateurs, notamment le musée du Louvre, qui a créé le modèle de référence de cette visite virtuelle. Et une agence française art graphique et patrimoine a monté la 3D, qui est aujourd'hui en ligne sur le site du ministère de la Culture via la collection Grand Site Archéologique. Donc le projet s'est fait en plusieurs étapes. D'abord le récollement de toutes ces données et ensuite un montage 3D au plus proche de la réalité, puisque l'un des points importants de ce projet, c'était aussi non seulement de faire revivre les collections, mais également de faire revivre le bâtiment.
Oui, de restituer une expérience d'une certaine manière.
Exactement, oui.
Et quelles seraient les pièces les plus emblématiques? Est-ce qu'il y aurait une pièce dont vous nous auriez envie de nous parler particulièrement?
Oui, il y a énormément de pièces emblématiques pour ce musée. Alors, un point important peut-être, c'est que le musée avait été déclaré pillé en avril 2024. Donc, comme je le disais, le conflit a débuté en avril 2023. Un an plus tard, il y a eu une annonce officielle de la part du service d'antiquité mentionnant le pillage du musée. Donc, il y a actuellement un travail en cours de la part des équipes qui ont pu regagner le musée, travaillant à établir des inventaires pour savoir quelles pièces ont disparu et quelles sont celles qui sont toujours en place. Une grande majorité ont été pillées. Mais le musée virtuel tel que nous l'avons conçu, le projet avait été initié avant l'annonce de ce pillage. Il a juste été accéléré après cette annonce. Donc l'idée, c'était de présenter des grandes pièces, les chefs-d'œuvre, qu'ils soient ou non pillés, mais de restituer comme aurait pu l'être le musée physique une fois l'ouverture officielle. Donc, en termes de chefs-d'œuvre, vraiment, on couvre toutes les périodes. Comme je le disais, de la préhistoire jusqu'à l'époque médiévale. Mais pour cette première phase, nous avons des œuvres qui vont jusqu'au royaume de Napata, notamment des 3D, des statues royales du site archéologique de Doukigel, qui sont exposées dans la galerie napatéenne. Cette première étape est en ligne depuis le 1er janvier 2026, qui est la fête nationale soudanaise. Et nous espérons mettre en ligne une deuxième phase avec les grandes pièces du royaume méroïtique et des époques médiévales à partir de cet été.
Et donc, on le rappelle, vous êtes archéologue. Votre métier, c'est donc d'abord d'exhumer des pièces, de les faire revivre. Comment vous comprenez cette autre manière de faire de l'archéologie en restituant cette fois ce qu'on n'a plus ?
C'est aussi un travail extrêmement important, extrêmement utile, puisque c'est vrai que les objectifs de notre institut de recherche, qui était basé à Khartoum, dans les locaux même du musée national, nos principales activités étaient le travail archéologique, le travail de terrain, la recherche. Mais c'est vrai que le contexte nous a entraînés à repenser nos projets, à tenter de créer divers projets à distance, que ce soit pour la protection des sites archéologiques ou pour la valorisation des collections muséographiques. Donc c'est une adaptation et aussi la possibilité, la grande opportunité, à vrai dire, de travailler avec d'autres collaborateurs, d'autres partenaires qui nous permettent de promouvoir ce patrimoine exceptionnel, notamment cette fois-ci par une visite virtuelle.
Alors on peut lire aussi que ce musée virtuel permet donc d'une part de perpétuer une mémoire, bien sûr, de valoriser le patrimoine aussi, mais également que ça permettrait de limiter le trafic des œuvres d'art concernées. Alors, est-ce que certaines des pièces ont déjà été retrouvées ?
Oui, en effet. Alors, c'est vrai que le musée virtuel a deux objectifs. Le premier, c'est de faire revivre à la fois le bâtiment, le musée lui-même et les collections par un accès en ligne, puisque c'est la première fois que nous avons ces collections directement accessibles en ligne. Il y a énormément de publications sur les collections soudanaises, mais cette fois-ci, c'est un accès à travers une plateforme gratuite. Le deuxième grand objectif, justement, est la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, puisque le patrimoine archéologique soudanais est encore peu connu par le grand public, et la possibilité de trouver en ligne toutes ces collections, tous ces fonds, va permettre aux experts, aux autorités officielles, les douanes, la police, Interpol, d'avoir accès à toute cette collection. Donc ça va permettre aussi de réguler ce trafic. Et pour répondre à votre deuxième question, il y a déjà environ 500 pièces qui ont été retrouvées. Le mois dernier, à Port-Soudan, le bureau de l'UNESCO a mis en place une cérémonie justement pour présenter ces pièces qui avaient été retrouvées suite à une investigation de l'ARPAR et du service des antiquités.
Et pour une dernière question, je crois que dans la deuxième phase du projet, il y aura notamment la chambre d'or. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ?
Oui, alors c'est-à-dire que comme le musée était en pleine rénovation, un nouveau plan, de nouvelles perspectives avaient été pensées par la directrice du musée, Ikhlas Abdellatif, et son équipe. Et le musée, bien sûr, se présente sur un circuit chronologique. Et il y a aussi deux pièces qui sont thématiques, une sur les momies et une sur l'or. Donc cette pièce sur l'or va permettre d'exposer les plus belles œuvres, en particulier de l'époque méroïtique, qui auraient dû être présentées dans le musée physique. Donc nous sommes actuellement en train de travailler sur cette pièce, en train de réunir les photographies d'objets et tous les éléments dont nous avons besoin.
Merci beaucoup, Faïza Dristi.
Je vous remercie.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, l'Union européenne menace de sanctions la Biennale de Venise.
Oui, nous vous en parlions il y a deux jours. La manifestation d'art contemporain a récemment autorisé la Russie à y participer de nouveau, après en avoir été écartée depuis son invasion de l'Ukraine en 2022. Hier, la vice-présidente de la Commission européenne a réagi dans un communiqué. Si la Biennale de Venise ne revient pas sur cette décision, l'Union européenne envisagera, je cite, « des mesures supplémentaires, y compris la suspension ou la résiliation d'une subvention européenne, dont bénéficie actuellement la fondation de la Biennale, et condamne fermement cette initiative.
L'exceptionnelle collection d'éditions rares des Mille et Une Nuits est mise aux enchères.
Abdelaziz Ghozi, fondateur de la librairie Abencerrage, bibliophile spécialiste de l'orientalisme, notion aujourd'hui décriée, mais à partir de laquelle il a élaboré une fine réflexion, vend l'ensemble des œuvres qu'il a réunies au fil de sa carrière, dont l'une des deux éditions originales presque complètes des Mille et Une Nuits. Traduit par Antoine Galland d'un original persan, arabisé et modifié, ces contes racontent l'histoire d'un long voyage et ont été publiés en 1704. La collection sera mise en vente aujourd'hui à 14h chez Milan à Paris et en ligne.
Et pour finir, on vient d'apprendre à qui sera décernée la Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes.
Et oui, et ce sera à l'artiste états-unienne Barbara Streisand pour célébrer sa carrière prolifique en tant notamment qu'actrice, réalisatrice, chanteuse et auteure-compositrice. Elle recevra cette récompense lors de la cérémonie du palmarès qui aura lieu le 23 mai prochain.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles, à demain. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.